Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu.
Une émission animée par Julien Mathieu.
Sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Aujourd'hui, nous recevons Christine Piton, membre bénévole d'Emmaüs, qui va venir nous parler de la réouverture de la communauté d'Emmaüs de Trappes. Puis Gaël viendra nous parler du programme du grenier à sel. À la demi-heure, le flash info. Chloé aussi et sa chronique consommation responsable, et Chloé qui nous parlera des épinards, Kylian ensuite qui nous fera une revue de presse internationale, et enfin la chronique de Cindy qui s'est fait un avis sur le film The Shape of Water. Mais d'abord, comme toujours dans Marmite fait son actu, on commence en musique avec Majid Cherfi, ancien membre du groupe Zebda et son titre Inch'Allah peut-être. Majid Cherfi sera en concert à la batterie de Guyancourt le samedi 10 mars à 20h30 avec Thibaut, T-I-B-O en première partie. Thibaut qui sera d'ailleurs l'invité de Julien dans l'antisèche de ce soir entre 20h et 21h. On écoute donc Inch'Allah peut-être de Majid Cherfi.
Maman avait, et c'était bien pratique, une réponse toute faite. Avant qu'on ait dit quoi que ce soit, sa réplique, c'était niette. Un mot qu'avait rien d'érotique, un genre de réponse en carton, qui donnait dans le Pacifique, mais n'avait de pacifique que le nom. On a cherché dans le Larousse, ce mot qui vivait dans la brousse, mais à sa façon de le prononcer. On savait pas par quelle lettre fallait commencer à le découper sans qu'on le sache. La langue de Victor Hugo à la hache, et pour pas y être jusqu'à demain, elle parlait avec ses mains. Et c'était Inch'Allah peut-être, c'est la promesse même qui a un mais. Inch'Allah peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Maman avait une formule magique, une réponse à toutes nos questions. Avant qu'on ait dit quoi que ce soit, sa réplique, c'était non. Et dans sa bouche magique, la même réponse, le même dicton, le même mot et la même réplique qu'on entendait sur tous les tons. Nous est apparu le mystère d'un mot qui voulait dire son contraire. Et comme si ça suffisait pas, un accent venait aggraver son cas. Car elle parlait la malheureuse, un français à la scie sauteuse. Nous pour comprendre un mot sur deux, on s'accrochait à ses deux yeux. Et c'était Inch'Allah peut-être, c'est la promesse mais qui a un mais. Inch'Allah peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Maman, qu'est-ce que ça veut dire Inch'Allah? Ça veut dire si Dieu le veut, si Dieu le veut. Mais s'il veut pas, s'il veut pas, ben tu peux dire adieu à ta casquette et à ton maillot de Beckham, ou à celui du petit génie argentin, à ta console, à ta PS, à ta bécane, t'auras rien. Et dans la bouche de ma mère, ce mot terrible qui nous promettait là l'une à condition de se taire. Oh, c'était Inch'Allah peut-être, c'est la promesse mais qui a un mais. Inch'Allah peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Inch'Allah peut-être, c'est la promesse mais qui a un mais. Inch'Allah peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Inch'Allah peut-être, c'est la promesse mais qui a un mais. n'arrive jamais. Et tant pis si ça n'arrive jamais.
Voilà, c'était donc un morceau de Majid Cherfi que vous pourrez retrouver donc en concert à la batterie de Guyancourt le samedi 10 mars prochain à 20h30. Et on passe maintenant à l'actualité du Grenier à sel avec Gaëlle. Salut Gaëlle.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaëlle.
Eh ben salut. J'ai pas parlé sur le jingle. Bah non,
faut respecter le jingle.
Bah oui, surtout que c'est le mien, il y a mon nom et tout. Alors je dis bien. Alors bonjour. Oui, ça fait longtemps que j'étais pas venu directement dans les studios. On s'était eu au téléphone dernièrement. Ça fait plaisir de vous revoir et de vous entendre.
Ben nous aussi, ça fait plaisir de te revoir.
Ben merci. Alors bon, je vais vous raconter un peu les films qu'on a cette semaine. Je vais commencer par Le Retour du Héros. Le Retour du Héros, c'est une comédie en costume d'époque avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent. Et c'est une comédie qui est plutôt sympa. Voilà.
Ça ouais, je l'ai vu et c'est vrai que c'est pas mal. Hein.
Bah oui, moi j'ai bien aimé. Je suis assez content. En plus, les images sont vraiment très belles. Je précise que la copie est en 4K, donc on en profite bien chez nous.
Alors, c'est quoi 4K ?
Ah oui, 4K, ben, les auditeurs de Marmite le savent, ça fait des années que j'en parle. c'est la résolution de l'image. D'accord. C'est la résolution de l'image. C'est 8 fois supérieur à la résolution qu'il y a dans les cinémas habituels.
Ah oui, d'accord. Donc ça change vraiment quelque chose par rapport à...
Bah, c'est la différence entre un Blu-ray et un DVD.
Ah oui, ok.
Voilà, chez nous, c'est du Blu-ray, en gros, et chez les autres, c'est un DVD. C'est l'histoire de d'un capitaine militaire. Alors mince, j'aurais dû noter l'époque parce que je me rappelle plus. On est plutôt sur 1800.
Je sais plus si c'est Napoléon Ier ou Napoléon III. J'ai le doute là. C'est un des Napoléons en tout cas.
Je dirais Napoléon III.
C'est le 3, ouais, c'est le 3ème.
Ouais, c'est ça. Je l'ai vu il y a longtemps et je me rappelle plus de grand chose sur l'époque. Voilà, je me rappelle de l'histoire en gros, hein, parce que je pense que ça peut être mis à n'importe quelle époque. C'est l'histoire d'un capitaine militaire, donc capitaine lâche, capitaine Neuville, qui est joué par Jean Dujardin et qui veut forcément passer pour un grand héros courageux. Ouais. Sauf que à ce moment, la guerre se déclare. Et la guerre est déclarée et il doit partir sur le front et sa fiancée l'attend, n'a pas de nouvelles, et ça se trouve il est mort, on sait pas, elle commence à s'inquiéter et la sœur de la fiancée lui se met à écrire des lettres à la place du capitaine Neuville et elle le fait passer pour un super héros, sauf qu'un jour ce fameux capitaine Neuville réapparaît, voilà. Et c'est pas du tout le super héros qu'on attend, c'est plutôt pas ça.
Ouais, c'est plutôt un tocard.
C'est un tocard. Il a déserté dès le début et donc il s'ensuit énormément de
un enchaînement de mythos.
Un enchaînement de mythos. On peut dire ça comme ça, un enchaînement de mythos. C'est exactement ça. Et c'est ce qui fait vraiment c'est ce qui fait l'intérêt de ce film, toute la séduction, le jeu qu'il y a entre la sœur de la fiancée qui est Mélanie Laurent et le capitaine mythos qui est Jean Dujardin. Et c'est toute cette relation entre eux qui est vraiment très drôle et très, très bien écrite.
Ouais. Et puis, il y a une scène, moi, qui m'a marqué. Je dis ça très vite. Il y a une scène qui m'a marqué.
Vas-y, spoil, c'est pas grave.
Ouais, non, je vais pas spoiler. Juste, c'est une comédie pure. Mais il y a un moment de drame, je sais pas si tu t'en souviens, quand ils sont en train de manger tous ensemble, qui est vraiment moi qui m'a marqué, où là tu te dis, ah ouais, Jean Dujardin il est fort quand même.
Ou il raconte...
Il raconte une histoire et tu te dis, ah ouais quand même. Et là t'as envie de pleurer quoi.
Oui, mais là, moi, c'est un peu, je peux pas... Oui, t'as raison, je suis d'accord, je peux pas en dire beaucoup plus,
parce qu'effectivement,
mais c'est bien. J'ai bien aimé moi cette comédie, ça fait du bien d'avoir ce genre de comédie
c'est clair.
Au cinéma. Bon, nos autres films, on a Belle et Sébastien 3, c'est le dernier volet des aventures de Belle et Sébastien. C'est un film qui a été réalisé par Clovis Cornillac, qui joue aussi dedans. Nous, on le conseille à partir de 8 ans. Alors, il se passe plein de choses dans cet épisode, et notamment les personnes qui vivent avec Sébastien, Pierre et Angelina, vont se marier et ils décident d'aller faire leur vie ailleurs. Ça veut dire quitter les montagnes, donc Sébastien est pas très content. Et en plus, l'ancien propriétaire de Belle réapparaît et veut récupérer son chien. Donc Sébastien est vraiment, vraiment malheureux, vraiment pas content. Comment vont-ils s'en sortir ? Nous avons aussi un drame de Xavier Legrand dans lequel il y a Léa Drucker et Denis Ménochet, s'appelle Jusqu'à la garde. Il y a quelques mois, au mois de novembre, on avait eu on avait fait une manifestation avec la mairie de Trappes contre la violence faite aux femmes et au grenier à sel. On avait passé un court métrage. Et j'aurais dû mieux préparer. On avait passé un court métrage de Xavier Legrand avec Léa Drucker et Denis Ménochet, donc c'est trois personnes qu'on retrouve dans ce film. C'était le court métrage qui est le début de cette histoire. Là, l'histoire, on a le mari et la femme qui vont divorcer. Visiblement, le mari est accusé de violence et le juge. Donc, la femme demande la garde exclusive des enfants, mais le juge accorde la garde partagée avec le père, sachant que le jeune garçon n'a pas vraiment envie d'aller habiter avec son père. On est sur une histoire qui est qui paraît comme ça vraiment difficile, et elle est fantastiquement bien jouée, et on n'en ressort pas vraiment complètement déprimé. On est vraiment au contraire, on a vraiment appris des choses, et puis en plus on a vraiment vécu avec ces gens-là. C'est un moment assez impressionnant. Ce film-là, Jusqu'à la garde, on l'avait programmé déjà en avant-première dans le cadre du festival Télérama au mois de janvier. Nous avons aussi deux documentaires. Nous avons L'intelligence des arbres, un documentaire allemand qui raconte que les arbres communiqueraient entre eux. Ils ne font pas que communiquer, d'ailleurs, ils s'occupent aussi de leur progéniture, de leurs anciens et des voisins. Il y aurait, en fait, dans leurs racines et tout ça, des échanges entre eux. Et c'est visiblement, cette affirmation a été confirmée par les scientifiques au Canada.
Je vais juste expliquer pourquoi tu as bugué pendant deux secondes. C'est parce que Fred, l'ingé son de l'émission...
Oui, qui ne passe pas à l'antenne.
Qui ne passe pas à l'antenne, nous a dit l'arbre généalogique. Et il a éclaté de rire. Voilà, il faudrait que tu nous expliques la blague, parce que franchement, moi, j'ai...
C'est quand j'ai parlé des arbres avec leurs progéniture et leurs anciens. Ça fait des arbres généalogiques.
Ok.
Et voilà. Donc, je me suis arrêté de parler, j'ai écouté Fred et j'ai souri.
Oui. Voilà. Mais c'est vrai, par contre, oui, c'est vrai que c'est les arbres communiquent entre eux, et ça, c'est vrai.
Eh ben, écoute, on verra ça dans le film.
Et c'est quand,
plus d'explications. C'est cette semaine. Okay. C'est plusieurs fois dans la semaine. Et il reste un autre documentaire qui s'appelle Atelier de conversation. Il faut savoir qu'à Trappes, par exemple, il y a les ateliers sociolinguistiques dans lesquels les nouveaux arrivants, les étrangers qui arrivent viennent apprendre la citoyenneté, mais aussi à parler français, surtout, et pour s'intégrer, pour le travail, pour la vie, pour les enfants, pour l'école, etc. Et à Paris, à la bibliothèque du Centre Pompidou, la bibliothèque publique d'information au Centre Pompidou, on va filmer cet atelier avec des personnes qui viennent de quatre coins du monde, qui se rencontrent régulièrement pour parler en français. Donc on a ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a tous les pays qui sont présentés, on a toutes les catégories socio-professionnelles qui se retrouvent autour de la table et qui racontent un peu de tout finalement, mais aussi leur histoire. Donc on a un petit fond politique de temps en temps, on a un petit fond social, on a un petit fond d'humour, on a des gens qui se rencontrent, qui se regroupent, et qui racontent leur histoire. Ce film, on le programme plusieurs fois dans la semaine, mais notamment le lundi, quelle est la date, lundi 12 mars à 14h dans le cadre du Ciné-Club. Le Ciné-Club, c'est une séance que l'on fait qui est ouverte à tout le monde, mais que l'on fait en partenariat avec le service retraité et avec les ateliers sociolinguistiques. Donc ça va permettre d'expliquer aussi leur travail, et c'est une séance qui est suivie d'une discussion et d'un goûter. Donc c'est lundi 12 mars à 14h, et vous retrouvez tout ça sur notre site internet cinemagreniersel.com.
Merci beaucoup Gaël, on te retrouve très bientôt dans Marmite fait son actu.
Merci, à bientôt.
Et on passe tout de suite à l'invité de la Marmite.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Et aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de recevoir Christine Piton, donc bénévole à la communauté Emmaüs de Trappes. Bonjour Christine.
Bonjour et merci d'avoir invité Emmaüs. Nous en sommes vraiment très, très reconnaissants, parce que aujourd'hui, comme on parlait d'actualité, l'actualité, c'est la réouverture du site des Bouleaux.
Exactement, donc on va en parler un petit peu plus longuement. Mais d'abord, je voudrais savoir, j'aimerais qu'en fait vous nous racontiez comment la manière en fait dont vous avez intégré la communauté Emmaüs de Trappes.
Eh bien, ce n'est pas très difficile. C'est en quelque sorte par le bouche à oreille. Une amie qui y était bénévole m'en a parlé et j'avais envie, en tant que retraitée, non pas que je n'avais rien à faire de mes journées, mais j'avais envie de, voilà, d'avoir une action solidaire. Et effectivement, il y a les Restos du Cœur, il y a le Secours Populaire, il y a un certain nombre d'associations possibles, mais j'avais envie davantage de partager et de recevoir aussi, et c'est ce que la communauté me permet, parce que nous travaillons avec les compagnons, les compagnons qui sont accueillis, hébergés et qui travaillent avec nous. On est vraiment dans le même projet de travail, et c'est hyper riche relationnellement. Voilà, donc c'est ce qui m'a fait me décider pour Emmaüs.
Alors justement, qu'est-ce qu'une communauté Emmaüs?
Alors, une communauté, je vais vous parler davantage de la communauté d'Emmaüs de Trappes, dans la mesure où je ne suis pas allée beaucoup visiter les autres communautés, mais celle de Trappes, comme les autres sans doute, est vraiment un lieu de vie, un lieu de travail solidaire, où nous sommes donc bénévoles, compagnons, et à Trappes nous en avons 5, 4 compagnons et une compagne, ainsi que les 2 salariés, le responsable de la communauté ainsi que son adjoint. Nous travaillons vraiment main dans la main pour accueillir les dons que les gens nous apportent, et là aussi nous les remercions. Parce que sans eux, ben, il n'y aurait pas de possibilité de travail. Donc ces dons, nous les trions, nous essayons de les valoriser, nous les remettons en vente. Et au bout de la chaîne, au bout de la vente, eh bien, il y a les acheteurs qui, pour des prix très modiques, parce que nous avons une politique de prix très bas à Trappes, certains nous disent à Trappes que c'est moins cher qu'à Bougival, par exemple, mais nous savons pourquoi nous faisons ça, parce que nous voulons qu'un maximum de gens puissent bénéficier de cette possibilité d'acquérir des objets qu'ils n'achèteraient peut-être pas neufs, parce que ce n'est pas complètement utile ou parce que c'est trop cher. Et donc, ça fait des heureux, et ça permet, nous, sur Trappes, d'héberger ces 5 personnes. Et nous espérons prochainement, lorsque les affaires auront bien repris, nous espérons en accueillir 5 autres, parce que ce qui est vraiment important, c'est cet accueil que nous faisons à des gens qui ont eu des parcours quelquefois très très difficiles, et avec eux, à leur contact et à notre contact, il y a déjà beaucoup de respect, de la reconnaissance et une envie, quoi, d'avoir la tête haute, au niveau de l'estime de soi, c'est très important. Ben moi, je sais que ça m'apporte beaucoup, alors que je suis une retraitée de l'éducation nationale, tranquille.
Mais justement, le personnage central dans une communauté Emmaüs, c'est le compagnon.
Oui.
Alors, comment vous recrutez ces compagnons? Comment peut-on arriver jusqu'à vous?
Alors là, pour moi, ça va être très difficile de répondre. La personne qui recrute les compagnons, ça va être certainement le responsable de la communauté, qui est Franck Letton sur Trappes, et qui a une grande connaissance du mouvement et d'Emmaüs, une grande culture aussi de ce partage. Et on n'accueille pas n'importe qui malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a... J'imagine un entretien, même si on n'est pas tellement rentré dans les détails, mais il y a un entretien, et ils sont accueillis à condition qu'ils adhèrent au projet. S'ils n'adhèrent pas au projet, qui est de servir aussi la communauté avec des horaires, c'est très cadré, à ce moment-là, on ne peut pas faire grand-chose pour eux. C'est pas de l'assistanat du tout.
Oui, voilà.
Voilà.
Mais alors justement, une fois qu'ils sont là, qu'est-ce que vous faites avec eux?
Alors, ce qu'on fait avec eux, ben, c'est qu'on essaye de faire fonctionner le site. Donc, comme j'expliquais, la réception des dons.
Ouais.
On peut aller chercher les dons. On a deux camions, donc les compagnons s'y collent parce que ils sont quatre et même la compagne est costaud. ils sont costauds, ils sont jeunes. Ils partent avec le camion à deux chercher les objets encombrants ou les objets lourds comme le gros électroménager. Donc ils ramènent ça au local. Arrivé au local, on fait un pré-tri. Où on met par genre le mobilier d'un côté, les vêtements de l'autre, etc. Après, on monte tout ça sur notre mezzanine qu'on a fait construire lorsque on était fermé. On a donc aménagé notre local pour qu'il soit plus facile à utiliser. Mmh. Donc on monte tous ces objets-là, et là il y a un tri minutieux par les bénévoles, quelquefois les compagnons s'ils ne sont pas de transport, et on met sur, pour les vêtements par exemple, on met sur cintre ce qui est propre, ce qui est en bon état, et ça part à la vente, et ce qu'il est moins ou sale ou trop sale ou plucheux, eh bien on a un contrat avec le relais qui nous récupère nos sacs, et là on envoie les camions, et on a une petite rémunération au volume. Voilà, et on fait pareil pour l'électroménager, pareil pour le meuble, pareil pour la ferraille. On essaye de jeter le moins possible. On essaye de recycler le plus possible, et la voie royale pour nous, c'est la vente.
Combien de temps reste un compagnon en général ?
C'est très variable, mais il n'y a pas de durée limitée. Il n'y a pas de contrat. C'est pas un CDD.
Ouais.
c'est lui en fonction de sa vie, de ce qu'il sent, ce qu'il a envie de faire, de rester, ou au contraire de certains compagnons deviennent salariés d'Emmaüs, d'autres salariés parce que ils se sentent aussi peut-être la possibilité, ou peut-être parce qu'ils ont rencontré quelqu'un et que ils ont envie d'orienter leur vie autrement. Ils font comme ils le désirent, mais toujours à condition de respecter le contrat.
Parce qu'on pourrait imaginer que vous fixez une date pour essayer de les remettre à pied, en quelque sorte, et que, enfin, de les remettre le pied à l'étrier, et ensuite établir une sorte de rotation. Mais du coup, non, c'est vraiment libre.
Oui, ils ont une grande liberté. C'est eux qui le sentent. Il y en a qui...
Ouais, c'est eux vraiment qui décident de...
Oui. Certains sont en phase de régularisation, par exemple, au niveau des papiers. Donc, c'est évident que c'est difficile qu'ils se retrouvent au milieu de la société. Souvent, ce sont des gens qui sont déracinés. Là, ils retrouvent, grâce à ce qu'on leur propose, ce que la communauté leur propose, c'est pas seulement de l'accueil, c'est aussi une forme de protection.
Ouais.
Jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. C'est comme l'oiseau, hein, tant qu'il ne sait pas voler, il ne s'envolera pas.
Et il y a un profil ? Ils ont un profil particulier, ces gens-là ? Ou ça peut vraiment
être
n'importe qui ?
Non, ça peut être n'importe qui. En tous les cas, on n'est pas on n'est pas un pôle emploi bis. Hein. ça peut être. En tous les cas, le profil, ce sont des gens quand même qui sont en grande détresse, hein, et qui ont eu peut-être des accros dans leur parcours, et qui. C'est pas spécialement des chômeurs, quoi. On pourrait penser qu'à l'heure qu'il est, voilà. Mais non. Ce sont plus des gens qui ont eu des accidents ou qui n'arrivent peut-être pas à trouver leur place. Le problème, il n'est pas travail, pas travail. Le problème, il est plus sur la personne. Et pour vivre avec eux depuis, parce que. On a réouvert au public le 3 mars, hein, mais ils sont arrivés, les compagnons, ils sont arrivés le 1er février. Et pendant un mois, on a vraiment travaillé ensemble. On mange ensemble tous les midis. On fait la cuisine à tour de rôle. Il y en a qui font sacrément bien la cuisine, d'ailleurs. Hein. Vendredi, c'est moi qui m'y colle. C'est d'une richesse, c'est parce que c'est vraiment un lieu de rencontre, de partage. Alors ça fait peut-être, je sais pas, ça fait peut-être bisounours ce que je dis, mais en attendant, c'est vrai que c'est riche, humainement c'est riche, hein, Enfin, moi, en tant que bénévole, c'est ce que je viens chercher. Parce que sinon, trier du linge, c'est pas mon truc, hein. Chez moi, c'est peut-être quelquefois moins bien rangé que les étagères qu'on remplit dans le magasin.
Oui, c'est pas bisounours, c'est humain. Finalement.
Voilà, c'est humain. Voilà, on est sur la solidarité, vraiment.
Vous avez des nouvelles des anciens compagnons ?
Alors, juste avant la fermeture de Trappes, justement, on ne fonctionnait plus comme une communauté. On n'en avait deux. On avait deux compagnons. Il y en a un qui est resté avec nous et un autre qui... Je ne sais pas s'il est dans une autre communauté. Je crois qu'il est dans une autre communauté, notre deuxième compagnon. Mais on ne fonctionnait pas vraiment comme une communauté. On était plus une association d'amis. Ce n'était pas satisfaisant. Là, vraiment, le but, c'est de pouvoir accueillir au moins cinq nouveaux compagnons. Ouais. Mais ça veut dire leur chercher un hébergement. Et ce n'est pas facile de trouver un hébergement lorsqu'on dit qu'on est Emmaüs parce qu'on loue. Et il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui acceptent de louer à Emmaüs. Là, on a eu une propriétaire qui est venue à l'ouverture d'ailleurs et qui accepte et fait confiance. C'est un acte solidaire aussi pour cette propriétaire. Donc, quand on donne, on fait un acte solidaire. Quand on accepte de louer pour Emmaüs, c'est solidaire. Quand on achète, même si les gens ne le savent pas, c'est solidaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne discute pas les prix.
Oui, ben justement. Pour faire vivre votre communauté, donc à Trappes. Est-ce que vous avez des ressources qui viennent de l'État ou du département, de la région, ou des financements publics, en tout cas ?
Là, j'aurais du mal à répondre parce que je n'ai pas de chiffres et de proportions. Une chose qui est sûre, c'est que l'essentiel des moyens de fonctionnement, ce sont nos ventes.
Ce sont les dons.
Ce sont les ventes liées aux dons. Et on a d'énormes charges puisqu'on on a acquis dernièrement le local dans lequel on est, là, alors qu'avant on était locataire. Donc on a un emprunt à rembourser. On a tout ce qui fait la mise en œuvre la construction de la mezzanine, les charges d'électricité, l'eau, enfin comme n'importe quelle association. Et puis il y a une petite partie qui part sur Emmaüs France pour aussi financer d'autres projets de solidarité, comme l'achat peut-être d'hébergement d'immobilier pour l'accueil de sans-abri ou Emmaüs International comme en Afrique avec la population. Ce qui est important, c'est que ça se passe avec la population, c'est pas nous qui nous exportons. Hein, c'est un projet qui est financé avec une logistique et pensé avec les gens d'Emmaüs, mais ce projet, il est construit par les gens qui sont sur place et qui habitent sur place et qui vont en profiter. Donc là, je donnais l'exemple de l'Afrique avec l'assainissement de l'eau d'un lac autour duquel les gens habitent et qui ne peuvent pas la boire. Ou au Brésil, la mise en place d'une agriculture bio avec les paysans locaux.
Et donc c'est grâce à la vente de certains dons ici que vous pouvez financer ce genre de projet
Alors, c'est pas nous qui les finançons directement, mais bon, parce qu'il y a des intermédiaires et voilà. Mais il y a une partie des ventes qui peut financer ça. Et on a un bon nombre de communautés en France. Je vais dire des bêtises parce que je retrouve pas le nombre dans les petites antisèches que je m'étais amenée. Mais
J'ai perdu le chiffre aussi, donc je sais plus.
Je l'avais. Mais en fait, il change parce qu'il y en a de nouvelles qui se créent. Il y en a qui se créent en Europe en ce moment et à l'international dans les continents voisins. C'est un mouvement. Enfin, on a besoin de solidarité, on a besoin de chaleur, on a besoin d'humains.
Alors, la communauté Emmaüs de Trappes était en stand-by pendant quelques temps. Je crois que c'est un an et demi.
Un an et demi, oui.
Qu'est-ce qui s'était passé ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous louions. Et puis, le propriétaire a voulu à un moment donné vendre. Donc, nous, on ne voulait pas acheter à ce moment-là parce que le local était trop petit pour notre activité. Enfin, on le trouvait trop petit tel qu'il était. Et puis, c'était assez cher. Donc, nous avons dû enlever nos affaires. Et puis, finalement, ça ne s'est pas vendu. Et puis, nous avons cherché. On avait d'autres propositions sur Coignères, mais on voulait rester sur Trappes. Donc on a commencé à réfléchir, puisque ce local nous tendait les bras, il y avait un quai de déchargement, il y avait un certain nombre de choses qui nous correspondaient bien, mais on manquait un peu de surface. Et l'idée, ça a été de construire une mezzanine sur la totalité, presque la totalité du hangar, de la surface du hangar. Mezzanine sur lequel maintenant fait le tri et tout en et le bas ne sert que à la vente.
Donc c'est au 201 avenue des Bouleaux, c'est ça, hein?
C'est ça, 201 en face de Pôle emploi. Il y en a malheureusement qui connaissent bien Pôle emploi, mais c'est effectivement en face de Pôle emploi.
Et donc ça a réouvert, donc la communauté a réouvert ses portes le 3 mars dernier.
Voilà. Alors depuis tous les samedis et mercredis.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce qu'il y a du monde qui vient?
Les retours qu'on a sont plutôt positifs. Tout le monde trouve que c'est super bien rangé, que c'est propre, que c'est bien organisé, que c'est plus lisible. Donc les gens sont satisfaits. Les prix que nous pratiquons sont toujours aussi bas. Les pantalons à 3 euros, des poussettes à 5 ou 10 euros, des meubles tout en merisier, j'en ai vu à 80 euros, alors que ce sont des meubles d'ébénisterie, des canapés pareils. Donc tout va bien, quoi.
Et il y aura une inauguration le jeudi 29 mars,
oui.
À 18h. Alors, parlez-nous un peu de cette inauguration. C'est quoi le programme?
Le programme, c'est sur invitation, inviter à la fois, on va dire, les VIP, alors tous les députés, sénateurs, maires et la CASQUI, de façon, parce qu'ils ont été malgré tout partie prenante à un moment donné ou à un autre du projet. On a besoin quand même de soutien, conseiller régional et général, le conseil général et régional. Donc un certain nombre d'invités de cette nature et puis tous les partenaires qui nous ont aidés à un moment donné ou qui sont intéressés au projet, que ce soit les journalistes, que ce soit les fournisseurs de matériaux, l'ancien propriétaire, le notaire, qui nous, enfin voilà, tous les gens qui ont participé de loin ou de près à l'élaboration du projet. Et évidemment, les compagnons, les bénévoles, tous les bénévoles et tous ceux qui sont actifs dans la communauté.
Alors, je voudrais maintenant qu'on écoute un extrait de l'abbé Pierre, donc le fondateur d'Emmaüs. Il était sur le plateau du JT de France 2 en mars 99, dans le 20h de Claude Sérillon, et il évoquait la manière dont il aimerait que son action se poursuive lorsqu'il ne sera plus de ce monde, donc c'est ce
donc,
qui est le cas.
Aujourd'hui.
On écoute.
Toute société, le monde, la Terre entière, maintenant que nous entrons dans une époque d'humanité planétaire, toute société, elle a à faire le choix entre deux principes fondamentaux, ou bien le service premier des forts, ou bien le service premier des plus petits, des plus faibles. Comme dans une famille, la société la plus élémentaire, c'est une famille. Alors si dans une famille, parce que les aînés, le papa et la maman sont des costauds, on entre, on sort, on claque les portes, sans faire aucune attention à un nouveau-né, à un malade, à un vieillard, c'est l'enfer. Il n'y a plus de société. La famille est perdue. Or, nos sociétés sont toutes malades. Apprendre à aimer, c'est cela la règle de vie d'une société viable, heureuse. Si devant le petit, tout le monde va s'arranger pour le servir et lui permettre de devenir tout ce qu'il est capable de devenir, alors c'est une vraie société, c'est une vraie famille.
Voilà, c'était donc l'abbé Pierre en 1999 au 20h de France 2. L'abbé Pierre qui finit même l'interview de manière assez visionnaire puisqu'il conclut en disant « Le 21e siècle sera fraternel ou ne sera pas ». Alors Christine Piton, comment vous accueillez les propos de l'abbé Pierre ?
Mais à côté, c'est une belle métaphore de la le fait de comparer la société à la famille. Oui, c'est hyper important et je crois que On est encore beaucoup dans le discours, mais on attend les actes. Quand on a répertorié dernièrement le nombre de SDF dans Paris, ils n'étaient pas 50, ils étaient tellement plus nombreux, et qu'il y a vraiment un gros travail à faire en direction de ces gens qui sont laissés pour compte, comme en direction de tous les chômeurs, même s'ils ont un foyer, une famille, qui sont laissés pour compte. Il y a un vrai travail à faire en direction des gens qui sont en difficulté aujourd'hui.
Merci Christine Piton. Je vais rappeler quand même l'adresse. Donc c'est le 201 avenue des Bouleaux, à Trappes. Les horaires de réception des dons, c'est du mardi au samedi. Vous me coupez si je me trompe. Hein. Du mardi au samedi, donc de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h. Donc c'est des horaires assez classiques, des horaires de bureau. Ça, c'est pour les horaires de réception des dons. Et les horaires d'ouverture, c'est du mercredi au samedi.
Non, le mercredi et le samedi.
Ah, le mercredi et le samedi, pardon, merci. De 10h à 12h30 et ensuite de 13h30 à 17h30. Voilà. Merci Christine Piton d'être venue dans le studio de Marmite fait son actu. Et rendez-vous le 29 mars prochain, donc, pour l'inauguration de la communauté Emmaüs de Trappes.
C'est nous qui vous remercions. Merci.
Alors, on va écouter Soumti qui sera en concert à la batterie de Guyancourt le samedi 17 mars à 20h30 à l'occasion de l'événement Le Temps des Femmes. La chanteuse Jackie fera sa première partie. On écoute donc Soumti et son titre Politique Man.
But
Voilà, c'était donc Soumti et son titre Politic Man. On écoute maintenant la chronique de Cindy sur The Shape of Water, le dernier film de Guillermo del Toro.
Bah oui, parce que moi je voulais faire du cinéma.
Hasta la vista, baby.
Vers l'infini et au-delà.
Allô?
Salut, Cindy. Quel est ton film d'horreur préféré?
Bonjour à tous. Dimanche 4 mars avait lieu la 90e cérémonie des Oscars. Du coup, je vais faire un récapitulatif des principaux gagnants. Le prix de la meilleure actrice est revenu à Frances McDormand pour Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. Elle entre ainsi dans le cercle très fermé des actrices à avoir eu deux Oscars. Le précédent était pour Fargo, des frères Coen, que je vous conseille au passage si vous ne l'avez pas vu. Il y a également une série qui a été adapté de l'univers de Fargo, qui marche très bien sur Netflix. Donc voilà, pour le meilleur acteur, on a Gary Oldman, sans surprise. Il est juste incroyable en Churchill dans Les Heures Sombres. Donc voilà, ça, c'était du tout prévu. Pour le film d'animation, encore une fois, pas de surprise, c'est Coco qui gagne. Je vous en avais d'ailleurs parlé et vous pouvez retrouver, je vous ai parlé des trois films. Voilà, je ne veux pas me la raconter, mais quand même, j'ai du flair, hein. Je vous pouvais retrouver sur le podcast de Marmite FM les chroniques, mes avis sur Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, Les Heures Sombres et Coco. Voilà, les trois films, c'est vraiment, ils sont vraiment super. Il faut absolument les voir. Mais il manque le prix du meilleur film, allez-vous me dire? J'y viens. C'est The Shape of Water ou La Forme de l'eau de Guillermo del Toro qui a remporté la mise. Ainsi que meilleur réalisateur, meilleure déco et meilleure musique pour des plats. Comme je ne l'avais pas vu, j'ai couru au cinéma après la cérémonie pour pouvoir vous en parler et voir si ces récompenses étaient méritées. Alors, La Forme de l'eau, ça met en scène Elisa, une jeune femme qui est muette. Elle mène une existence qui est plutôt routinière, voilà, c'est métro, boulot, dodo. Et elle fait du ménage dans un bâtiment du gouvernement américain. C'est là qu'elle va faire la rencontre la plus étrange et la plus inoubliable de sa vie. Alors je tease un peu, mais ceux qui ont vu la bande-annonce savent qu'elle rencontre un être mythologique, une expérience scientifique, un monstre, certains diront. Pour ma part, franchement, je suis hyper mitigée sur le film. Alors oui, c'est indéniable, les décors ils sont magnifiques et ils permettent de rentrer tout de suite dans l'histoire. J'ai adoré l'ambiance qui se dégageait du film. Voilà, il y a une atmosphère vraiment particulière et on se sent vite pris dedans, donc ça c'est vraiment bien. La musique de Despla, elle est juste incroyable aussi, elle reste en tête et elle participe vraiment au film. Maintenant, l'histoire, pour moi, c'est un peu du réchauffé, on l'a déjà vu. Et parfois, j'ai eu peur que ça frôle un peu le ridicule. J'ai eu vraiment peur. Alors après, Del Toro, il a eu la chance de ne pas tomber dans l'écueil et c'est tant mieux. Mais je ne sais pas si vous avez vu le film Splice avec Adrian Brody où pareil, il s'enamourage d'une créature étrange qui ressemble à un monstre. Et là, c'était clairement ridicule. Et voilà, j'ai eu peur qu'on tombe exactement dans la même chose. Donc non, ce n'est pas le cas. Mais en même temps, cette relation, elle m'a mis un peu, je sais pas, je dirais mal à l'aise, voilà, je sais pas. Il y a quelque chose quand même avec, quand on aborde ce type de sujet, ou avec un espèce de monstre, d'être comme ça, surnaturel, voilà, c'est toujours délicat à traiter. Après, The Shape of Water, tout ce que j'ai entendu dessus, c'est vrai. C'est une ode à l'amour, c'est une ode à la différence. Ce film, il est hyper poétique. Je suis totalement d'accord avec tout ça. Peut-être que le mieux, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller le voir et de vous faire votre propre avis. C'est sûr que je pense que comme moi, vous allez voir que l'univers va vous toucher. Les personnages sont touchants, sont émouvants. On s'identifie très bien à eux. Après, bon, voilà, il y a des choses avec lesquelles j'étais pas tout à fait à l'aise dans ce film, mais voilà, c'est quand même une ode à la différence et à l'amour. Voilà, c'est tout pour moi.
Merci Cindy, à la semaine prochaine, et c'est maintenant parti pour le Flash Info. À Trappes, un nouvel institut vient d'être inauguré dans le but de mesurer les nanoparticules. Son nom, l'Institut LNE Nanotech. Des moyens uniques en Europe ont été donnés à ce laboratoire afin d'apprendre à maîtriser ces minuscules particules. Celles-ci sont présentes dans de nombreux produits cosmétiques, médicamenteux et alimentaires. On en retrouve donc dans des crèmes solaires, les dentifrices, certains textiles, les plats préparés ou encore la peinture. De nombreux organismes ont même alerté sur le fait que du dioxyde de titane était présent sous forme de nanoparticules dans des sucreries, sans que cela ne soit spécifié sur l'étiquette. Alors, est-ce que cela est-il dangereux pour nous? Eh bien oui, parce que en raison de leur taille infiniment petite, les nanoparticules peuvent franchir n'importe quelle barrière dans notre corps. Elles peuvent donc pénétrer la paroi intestinale et se retrouver dans le placenta, le foie, les poumons et même le cerveau. Mais elles ne sont pas inoffensives puisqu'elles peuvent avoir des effets sur notre santé comme l'affaiblissement du système immunitaire. D'après le magazine 60 millions de consommateurs, de nombreux aliments contiennent des nanoparticules et il est souvent difficile de les repérer. Il faut donc surveiller les étiquettes et retenir le nom des plus dangereuses. Il s'agit du dioxyde de titane nommé E171 et du dioxyde de silicium appelé E551. En théorie, les normes européennes exigent la mention du terme « nano » sur les étiquettes des produits contenant ces ingrédients. Donc, l'Institut LNE Nanotech de Trappes aura pour but, entre autres, d'identifier le comportement de ces nanoparticules. Je tiens quand même à préciser que maîtriser les nanoparticules signifie également pouvoir les modeler, c'est-à-dire les utiliser, voire même les fabriquer. Si ces nanoparticules sont maîtrisées par des citoyens, disons « moraux », la science en sortira peut-être grandie. Dans le cas contraire, les conséquences pourraient être très graves puisque nous parlons ici d'organismes invisibles à l'œil nu. On passe maintenant au bref. À Trappes toujours, l'AMAP, l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne, cherche de nouveaux membres. Il s'agit en fait d'un partenariat de proximité entre un maraîcher et des consommateurs à la recherche de produits bio garantis et certifiés. L'idée évidemment étant de ne pas passer par un intermédiaire et d'appuyer la démarche d'une agriculture saine et bio. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site amapidf.org, donc amap-idf.org. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur le maraîcher qui vend ses produits à la MAP de Trappes, je vous donne son site internet au-potager-gourmand.fr. Encore et toujours à Trappes, un concerto sera organisé à la Meurise le samedi 17 mars à 20h30 en compagnie de l'ambassadeur de Finlande. Ce concert symphonique se fait dans le cadre des 8 séances de concerts pédagogiques organisées par l'association pour la promotion de la musique classique à Saint-Quentin en Yvelines. L'année dernière, 3 séances seulement avaient pu être élaborées. Pour répondre à la forte demande, la violoniste Marianne Piketty et le chef d'orchestre Julien Mamondé échangeront donc à 8 reprises avec les enfants. Les séances auront lieu le jeudi 15 et vendredi 16 mars à 9h45, 10h30, 14h et 15h. À plaisir cette fois, la RD30 ouvre dans sa totalité aujourd'hui. Après 3 ans de travaux et 87,5 millions d'euros investis par le département et la région, le doublement de la chaussée et le tunnel sont enfin terminés. Des aménagements paysagers doivent encore être réalisés afin de permettre aux piétons et aux cyclistes de rejoindre le bois de la Crâne sans danger. La maire de Plaisir affirme que fin 2017, tout sera terminé. On continue avec la revue de presse internationale de Kilian. C'est parti.
Killian Dimex, International Press Review. La revista de prensa internacional de Killian Dimex.
Bonjour à tous, bonjour Julien. Les actes commis par la Turquie contre les Kurdes vont être jugés par le Tribunal des Peuples. La session du Tribunal Permanent des Peuples, qui aura lieu à Paris le 15 et 16 mars prochain, jugera notamment de la recrudescence des attaques de l'État turc contre des civils dans des villes kurdes. Elle fera également la lumière sur les attentats ciblés contre des opposants, comme l'assassinat à Paris de 3 militants kurdes en 2013. Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, qui aura lieu le 8 mars, un millier de femmes sont parties lundi matin de la ville de Qamishli, dans le nord-est de la Syrie, pour rallier Afrin en guerre. République démocratique du Congo, Joseph Kabila tue son peuple et fustige l'ONU. L'objectif zéro mort que la police congolaise s'était fixé ce week-end a une fois encore échoué, comme celle des 31 décembre et 21 janvier dernier. La marche pacifique appelée ce dimanche dans toute la République démocratique du Congo a été réprimée dans le sang. Selon un bilan des Nations Unies, au moins 2 personnes ont été tuées par balle à Kinshasa et à Mbandak. Dans des grandes villes comme Kisangani et Lubumbashi, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles, faisant 47 blessés. Plus de 100 manifestants auraient été arrêtés sur l'ensemble du territoire. Colonialisme, le Sahara occidental exclu de l'accord Union européenne-Maroc. C'est une seconde victoire importante pour le peuple sahraoui, un peu plus d'un an après que la Cour de justice de l'Union européenne ait jugé que les conventions agricoles entre elle et le Maroc n'étaient pas conformes aux règles. Hier matin, c'est l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, signé en 2007, qui a pris du plomb dans l'aile. La juridiction européenne a estimé que cet accord ne pouvait être applicable aux eaux adjacentes de la région disputée du Sahara occidental, car ne respectant pas le droit à l'autodétermination. Pérou, la main-d'œuvre gratuite n'a pas d'âge, selon Cathy Dos Santos du journal L'Humanité. Manifestation contre un projet de loi qui prévoit de faire travailler des lycéens et des étudiants du technique, mais sans rémunération. La réponse des concernés ne s'est pas fait attendre. Non à la loi des esclaves, ont-ils rétorqué. C'est là l'un des slogans entendus à Lima dans le cortège violemment dispersé par la police ce vendredi. Ni stage, ni emploi. Les modifications de la parlementaire préconisent que les jeunes des carrières techniques travaillent un maximum de 448 heures répartis sur 3 ans, avec un seuil maximum de 4 heures par jour et 20 heures hebdomadaires, de manière totalement gratuite et volontaire. À Iquitos, ce sont plus de 60 organisations de jeunesse qui ont battu le pavé contre l'idée d'être volontaire pour travailler à l'œil, autrement dit, d'avaler sans ciller la mise en concurrence des jeunes entre eux et des salariés. Au Burkina Faso, une attaque menée vendredi dernier à Ouagadougou a fait au moins 16 morts et 80 blessés. Des groupes armés ont mené plusieurs attaques dans la capitale du Burkina Faso. L'état-major des forces armées burkinabé, l'ambassade de France et l'Institut français ont été visés. Ces attaques rappellent à l'Elysée que son projet de sanctuarisation de cet espace postcolonial, riche en pétrole, est loin d'aboutir. L'attaque est la troisième en un peu plus de 2 ans. Le 13 août dernier, une fusillade qui n'a pas été revendiquée sur le café Aziz Istanbul avait fait 19 morts et 21 blessés. Le 15 janvier 2016, un raid islamiste contre un hôtel et un restaurant des quartiers riches de la capitale avait tué 30 personnes. En Chine, le président Xi Jinping vers un troisième mandat. Le comité central du Parti communiste chinois a proposé dimanche de réformer la constitution et de supprimer la limite actuelle de 2 mandats consécutifs pour le président et le vice-président de la République populaire. Le Parlement a également suggéré d'inclure la pensée Xi Jinping dans la loi fondamentale. Les parlementaires se pencheront sur ces 2 propositions lors de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire qui s'est déjà ouverte avant-hier. Élections législatives au Salvador. L'ancienne guérilla au pouvoir a entendu conserver la capitale et redevenir la première force politique lors des municipales et législatives de ce dimanche. Le parti d'opposition de droite Arena est arrivé en tête des élections législatives et municipales au Salvador dans la perspective de la présidentielle de 2019. Il remporte 408 031 voix contre 244 329. L'Arena, alliance républicaine nationaliste, a remporté 408 031 voix. Restitution des trésors publics lors de la conquête coloniale. À l'issue de son entrevue à l'Élysée avec le président béninois Patrice Talon, Emmanuel Macron s'est dit ouvert à des restitutions temporaires ou définitives des biens culturels africains conservés dans les musées français. On rappelle les différentes méthodes de collecte qui avaient été utilisées par les anthropologues dans les années 1950 sur le sol africain. Les récades, le trône, les armes du roi Béhanzin, les statuettes anthropomorphes et les portes sculptées du palais d'Abomey, pillées durant la conquête coloniale, quitteront-ils bientôt le musée du Quai Branly ? Déjà plus de 9000 morts, des dizaines de milliers de blessés, Paris continue à autoriser l'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite, l'ONU parle de plus grande crise humanitaire au monde, le Yémen est en feu, les attaques aériennes de la coalition en particulier continuent de frapper des hôpitaux, des écoles, des mosquées, des infrastructures civiles et de tuer des millions de personnes chaque jour. Enfin, notre grand titre de cette semaine, les élections législatives italiennes se sont déroulées il y a 2 jours, dimanche 4 mars. 3 blocs se sont affrontés, la coalition de centre-gauche autour du Parti démocrate de Matteo Renzi, la coalition de droite et d'extrême droite menée par Silvio Berlusconi et les démagogues du mouvement 5 étoiles, et 2 listes de gauche concouraient également au suffrage des électeurs. 2 vainqueurs et 2 vaincus, côté gagnant Luigi Di Maio, 31 ans, le tout nouveau leader du mouvement 5 étoiles, et Matteo Salvini, 44 ans, chef de la Ligue depuis 2013. Succès donc du mouvement 5 étoiles et de l'extrême droite, qui reste le premier parti du pays, il obtiendrait entre 29 et 32% des voix, soit bien plus qu'en 2013. Il progresserait notamment dans le sud du pays. La coalition d'extrême droite est en tête. Forza Italia serait devancée par la Ligue de Matteo Salvini, estimée entre 13 et 16%. À cela, il faut ajouter le score de Frères d'Italie, une force néo-fasciste, créditée de 3 à 6%. Le centre-gauche en baisse, d'après Gaël De Santis, du journal L'Humanité, le parti démocrate de Matteo Renzi s'effondre, crédité de 20,5 à 23,5% des suffrages. Les projections en siège pour la Chambre des députés montrent qu'aucune majorité ne se dégage. La coalition de droite et d'extrême droite est loin d'obtenir les 315 sièges pour gouverner. Elle en occuperait entre 225 et 265. Le centre-gauche entre 115 et 155 quant à lui. L'occasion pour nous d'écouter Bella Ciao, un chant de révolte italien qui célèbre l'engagement dans le combat mené par les partisans de la Seconde Guerre mondiale contre les troupes allemandes, nazies et fascistes de la République sociale italienne durant la guerre civile. Les paroles ont été écrites fin 1944 sur la musique d'une chanson populaire que chantaient au début du XXe siècle des saisonnières désherbant les plaines du Pô.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Kylian Guénec pour Marmite fait son actu. Excellente semaine à toutes et à tous.
Merci Kylian, on te retrouve pour une nouvelle revue de presse. Et avant de se quitter, on écoute Chloé et sa rubrique Consommation responsable et développement durable. Chloé qui va nous parler des épinards, épinards qu'auraient dû manger les joueurs du PSG hier soir pour être un peu plus forts. On écoute.
Marmite FM présente la chronique Consommation responsable et développement durable avec Chloé.
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de mars. Aujourd'hui, je vous parle des épinards. En effet, c'est la saison et vous en trouvez chez votre primeur. Vous faites la tête, les épinards, ça vous rappelle de mauvais souvenirs? C'est soi-disant le légume que vos enfants détestent? Eh bien, je vais faire en sorte de redorer le blason de ce légume qui pâtit à tort d'une mauvaise réputation. Tout d'abord, il faut savoir que l'épinard est l'un des végétaux les plus légers. Une portion rassasiante de 200 g d'épinards cuits n'apporte en effet que 50 kcal et permet en outre de faire le plein de fibres, de minéraux et il contient de grandes quantités de vitamines. Bref, c'est un aliment bon pour la santé. Vous allez me dire, ce n'est pas suffisant, je suis bien d'accord avec vous. Mais l'épinard, c'est bon, si on le choisit bien au moment de l'achat et si on le cuisine bien. Bien sûr, si c'est cette bouillie infâme que vous aviez mangé à la cantine quand vous étiez petit, forcément, ça vous laisse des mauvais souvenirs. Il faut le choisir frais, car comme je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec la bouillie des épinards surgelés, hachés. Choisissez-le donc frais et regardez les feuilles. Prenez-les avec des feuilles vert foncé, lisses, tendres et charnues. Éliminez les feuilles jaunes et flétries ainsi que les feuilles trop humides et surtout préférez les jeunes pousses qui sont plus tendres. Cela se voit à l'œil, les tiges sont beaucoup plus fines et les feuilles toutes fines. Conservez le tout au plus 2 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. Il est fragile et perd rapidement ses vitamines une fois cueilli. Alors cuisinez-le rapidement. Lavez-le seulement au moment de l'utiliser, car mouillé, il ne se conserve pas. Une fois lavé à grande eau, il faut débarrasser la feuille d'épinard de sa côte. Il suffit alors de l'équeuter, puis de la pincer tout en tirant la nervure du côté opposé jusqu'en haut de la feuille. L'épinard se conserve très bien au congélateur, il doit être au préalable blanchi quelques minutes, puis pressé entre les mains afin d'éliminer toute l'eau dont il s'est gorgé. Et ensuite ? Ensuite, on peut le consommer cru tout d'abord, en salade ou dans un sandwich comme du cresson ou de l'oseille auquel il se mélange très bien d'ailleurs. Dans ce cas, ce seront les jeunes pousses qui seront les meilleures. En plus, il n'est pas nécessaire de retirer leur côte centrale. N'hésitez pas à ajouter des pommes, du parmesan, de la mozzarella ou encore des morceaux d'orange pour des entrées originales et délicieuses. Si vous voulez le consommer cuit, il faut d'abord commencer par le blanchir rapidement dans de l'eau bouillante salée. Mais pour préserver au maximum ses qualités nutritionnelles, vous pouvez, sinon, le cuire à l'étuvée ou à la vapeur. C'est aussi rapide. Ensuite, goûtez-le nature ou tout juste accompagné d'un peu de beurre et de jus de citron, de sauce mornay, de béchamel ou de crème fraîche. C'est super bon. À savoir que l'épinard est une garniture idéale pour les viandes blanches et surtout les poissons, à commencer par le saumon et le cabillaud. Vous pouvez également l'utiliser dans vos omelettes et tartes, des tourtes, des feuilles de brique, seul ou agrémentées de fromage de chèvre en particulier. L'épinard se cuisine aussi en gratin, dans lequel pâtes, lardons, béchamel seront les bienvenus. Bref, plein de recettes possibles. Pour vos enfants, faites cuire 500 g d'épinards, puis ajoutez 100 g de pommes de terre, mixez le tout et vous obtiendrez une purée que toute la famille adoptera. Ni vu, ni connu, vous ferez manger les épinards à vos enfants. Enfin, l'épinard se consomme aussi, bien sûr, en soupe. Pour finir, je vous donne une recette de tarte aux épinards, chèvre et miel et noix, que j'ai testée, approuvée et qui est un vrai régal. Donc, pour une tarte de 22 cm de diamètre, pour la pâte, vous prendrez 250 g de farine, 125 g de beurre au cristaux de sel, 4 cl d'eau, 40 g de cerneau de noix mixé grossièrement, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de miel. Pour la garniture, il vous faudra 600 g d'épinards frais, 100 g de chèvre, 2 œufs, 20 cl de lait, une cuillère à soupe d'huile d'olive, quelques cerneaux de noix, du sel et du poivre. On commence par la pâte, bien sûr, qu'on fait soi-même. On mélange du bout des doigts la farine et le beurre jusqu'à obtenir un sablage homogène. Vous ajoutez l'eau, l'huile, le miel et les noix concassées, puis vous mélangez afin d'obtenir une boule de pâte lisse. Vous l'étalez, vous la placez dans un moule à tarte recouvert de papier sulfurisé. Vous la piquez à l'aide d'une fourchette et vous l'enfournez à 220 degrés pendant 4 minutes. Pendant qu'elle tiédit, préparez la garniture. Donc, pour cette garniture, vous versez les épinards dans de l'eau bouillante salée. Vous pouvez ensuite éteindre le feu et laisser tremper 5 minutes en remuant de temps en temps. Ensuite, vous égouttez les épinards en les pressant, puis vous les déposez sur une planche pour les hacher grossièrement. Vous les salez et vous les placez sur toute la surface de la tarte. Vous pouvez ensuite recouvrir de chèvre émietté et de cerneaux de noix concassés. Dans un saladier, vous battez les œufs avec une cuillère à soupe d'huile, puis vous ajoutez le lait, salé et poivré. Vous versez délicatement ce mélange lait et œufs sur la tarte. Il ne faut pas que ça déborde, quitte à ne pas mettre tout si vous en avez trop. Vous enfournez 40 minutes et vous laissez refroidir la tarte dans le four éteint entrouvert. Ça y est, vous pouvez vous régaler. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous tenterez les épinards. N'hésitez pas à faire cette recette, vous ne serez pas déçus. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi en compagnie de l'équipe de Marmite fait son actu. Faites-vous plaisir et à la semaine prochaine.
Merci Chloé, à la semaine prochaine. Voilà, Marmite fait son actu, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine entre 17h et 18h sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, c'est le temps ne fait rien à l'affaire, l'émission de la chanson française avec en invité la chanteuse Anne Sylvestre. Et puis ce soir à 20h, l'Anti-Sèche, animé par Julien. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine dans Marmite fait son actu.
Marmite fait son actu, tous les mercredis de 17h à 18h, en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu.
Une émission animée par Julien Mathieu.
Sur Marmite FM 88.4.